Chapitre 10. Les choses ainsi convenues, Justine leva la marquise de Champrosay et, après l'avoir remise aux mains des autres femmes pour finir de l'accommoder, la quitta après lui avoir demandé le congé de sortir. L'abbé fut introduit et admis comme de coutume à faire sa cour. Malgré les souffrances que devait lui causer l'amour qui le brûlait, il avait le teint rose et paraissait très frais pour un homme rôti, calciné et tombé en cendres. Le chevalier ne tarda pas à paraître, suivi du commandeur, qui précédait le financier, de sorte que la ménagerie familière de Madame de Champrosay se trouva au grand complet. Ils furent tous enchantés de voir la marquise dans de meilleures dispositions, qu'ils attribuèrent d'un commun accord à l'influence salutaire de la promenade au cours la reine. Mais pas un parmi ces hommes perspicaces ne devina que la fraîcheur de Madame de Champrosay venait de ce qu'elle avait passé la nuit au bal, et le feu de ses prunelles de ce qu'elle n'aimait aucun d'eux. Justine ne perdit pas de temps, et en effet, il n'y en avait pas à perdre, puisque tout devait être prêt pour le lendemain. Elle loua près d'une église une chambre et un cabinet fort convenables, au prix de 150 olives par an, dont elle paya sur le champ un quartier. Puis elle alla chez un marchand de meubles d'occasion, où elle acheta ce qu'il fallait pour garnir les appartements de Mademoiselle Jeannette, ayant soin de ne rien choisir que de très propre, mais qui n'eût point l'air trop neuf. Et avec l'aide de deux garçons tapissiers assez adroits, elle eut bientôt mis le nid en état de recevoir l'oiseau. Elle se procura aussi chez une lingère de ses amies du linge tout fait, assez bon, et quatre couturières, largement payées, eurent bientôt coupé, bâti et cousu les étoffes qu'elle leur avait livrées sur un patron à la taille de Madame de Champrosay. Le lendemain, tout se passa comme il avait été réglé. Sortie de chez elle, dans sa voiture et avec les habits de sa condition, Madame de Champrosay se fit conduire à l'église Saint-Mère, entra par une porte, se déroba par une autre et trouva dans le fiacre qui l'attendait une mante que Justine y avait mise pour qu'elle la pût jeter sur son costume de grande dame et monter à la chambrette sans qu'on la remarquât. L'escalier était un peu roide et fait en échelle de moulin. Une grosse rampe de bois le bordait d'un côté et de l'autre, une corde allait à l'ascension. Il y avait, loin de là, à l'escalier de l'hôtel de Madame de Champrosay, si commodément ménagé par le sieur Ledoux, architecte de la favorite, orné de bas-reliefs représentant les bacchanales d'enfants par le comte, et côtoyé d'une rampe ouvrée et fleuronnée par le célèbre serrurier Amour. Mais ce contraste plut à la marquise, qui posait en chancelant sur des marches raboteuses un pied habitué à fouler les degrés de marbre et des tapis moelleux. En entrant dans la chambre, Madame de Champrosay fut on ne peut plus satisfaite du zèle de Justine, car ce petit asile, tout en ne dépassant en rien la médiocrité, avait tout ce qu'il fallait pour nicher convenablement l'innocence ou l'amour. Si Madame de Champrosay eût été philosophe, elle ne l'était pas. Elle eût pu faire mille réflexions fastidieuses sur la folie des mortels qui se tourmentent de mille manières pour acquérir un luxe qui n'est point nécessaire au bonheur. En effet, cet intérieur que le peintre Chardin, si vanté à bon droit par M. Diderot, eût aimé à reproduire, formait avec sa boiserie grise, son carreau recouvert d'un tapis usé, sa cheminée de faux marbre surmontée d'un camailleux, sa fenêtre aux vitres étroites et dont quelques-unes avaient un bouillon au milieu, son pot de faïence de Vincennes où trempe une fleur, sa lumière sobre, tranquille, discrète, concentrée sur la table à ouvrage, un fond tout aussi favorable à la beauté de la marquise que son opulent boudoir encombré de cabinets de laque, de magots de la Chine, de biscuits de Sèvres, d'impostes de boucher, de gouaches de Baudouin et de mille superfluités coûteuses. Le mobilier était des plus simples, mais Justine n'avait rien oublié. Une couchette de bois ordinaire, peinte en gris et rechampie de blanc, se cachait à demi sous de pudiques rideaux de Perse. Quelques chaises à pied de biche, une bergère en velours d'Utrecht vert un peu passé, un peu miroité, mais sans taches ni déchirures, où l'on eût pu jurer que la grand-mère s'était assise pendant 10 ans. Une commode en marqueterie à dessus de marbre, à tiroir garni de poignées de cuivre rose-gaille, une petite table bien luisante, bien cirée, à faire honneur à la propreté d'une ménagère flamande, et sur laquelle étaient placées les planchettes, les écheveaux de fil, les pelotes d'épingles et les bobines qui servent à faire la dentelle, un trumeau garni de sa glace, car il faut bien à la fillette la plus modeste et la plus pauvre au bout du miroir pour se regarder, composait un ameublement qui fit voir plus tard Madame de Champrosay qu'il ne fallait pas de grandes dépenses pour loger le bonheur. La fenêtre, car cette chambre avait été celle d'une véritable grisette, était entourée d'un cadre de pois de senteur, de liserons et de capucines, les uns en fleurs, les autres en train de fer, en attendant mieux grimper leurs feuilles découpées en cœurs et d'entortiller leurs vrilles après les ficelles tendues par une main prévoyante. Cette fenêtre donnait sur les jardins d'un vaste hôtel du voisinage, et par cet accident heureux, la fenêtre de Jeannette échappait à ces horizons de Paris composés d'angles de toit, de tuyaux de cheminée, de grands murs maussades délavés par la pluie, et qui ne sont pas faits à souhait pour le plaisir des yeux. Les cimes des marronniers panachaient de fleurs, ondoyait et le zéphyr en apportait l'amer parfum sur le bout de son aile. L'examen du logis achevé, l'on procéda à la toilette, qui fut faite en un tour de main. Il ne s'agissait que de changer de robe et de coiffure, d'aller du composé au simple. Grâce à l'habileté consommée de Justine, la métamorphose fut complète. Il n'est peut-être pas si aisé que l'on croit de changer une marquise en grisette. Le contraire serait peut-être plus facile. Aussi Justine a-t-elle avoué plus tard que cette toilette avait été son coup de génie, son œuvre suprême, et elle a dit que pas une des grandes toilettes de Madame ne lui avait coûté de si vifs efforts de conception, ni lui avait semblé plus impossible à exécuter. Madame de Champrosay jeta un coup d'œil dans la glace, qu'elle n'avait pas regardé jusque-là, cédant à la prière de Justine qui lui avait demandé de ne point se mirer en détail, mais d'une seule fois pour jouir de la surprise du changement à vue. La marquise fut à la fois étonnée et ravie. Elle se trouvait à une beauté inconnue. Quoique plus charmante que jamais, elle se reconnaissait à peine. Tout en elle était changé, jusqu'à la couleur des cheveux et du teint. Par l'absence du rouge et de poudre, l'air, l'expression n'était plus les mêmes. Au lieu de cette grâce piquante, de ce grand air insolent de la beauté, elle avait une physionomie douce, modeste, virginale, presque enfantine, car cette simplicité fraîche la rajeunissait de 2 ou 3 ans. Elle était une fois plus belle qu'au bal de la veille, où, vêtue des habits de Justine, elle avait nécessairement pris quelque chose de moins pur et de moins distingué, car les habits se moulent sur le caractère, et l'âme de ceux qui les portent leur font prendre certains plis, et Justine avait une âme de femme de chambre. « Madame voit qu'elle peut perdre sa fortune sans risque pour sa beauté, et que ses charmes ne sont ni chez la marchande de mode ni chez le bijoutier », dit Justine avec un légitime sentiment d'orgueil. Tout ce que madame porte ne vaut pas 30 livres. Oui, mais aussi c'est Justine qui m'a habillée, répondit madame de Champrosay, rendant le compliment à sa camériste. Mais il est plus de 3 heures. Donne-moi ce petit carton et conduis-moi jusqu'à l'angle de la rue Saint-Martin, où tu m'abandonneras à mon sort. Chapitre 11. Le travestissement achevé, madame de Champrosay descendit l'escalier, suivie de sa fidèle camériste, qui la soutenait par le coude avec une sollicitude obséquieuse. Cela sembla singulier à la marquise de marcher elle-même dans la rue. C'était la première fois qu'elle se trouvait en contact avec le pavé de Paris, si boueux, si inégal, si glissant, et pourtant si plein de charme pour l'observateur et le moraliste qui savent y glaner 1000 anecdotes bizarres ou philosophiques. Elle voyait le peuple de plein pied, elle qui jusqu'alors n'en avait aperçu que du haut de son carrosse, et s'étonnait, parmi beaucoup de figures tristes et hâves, sur lesquelles la misère ou le malheur avaient laissé leur empreinte, d'en rencontrer plusieurs, qui ne différaient pas beaucoup des visages ayant leurs grandes et petites entrées à Versailles. Contrairement aux habitudes des grisettes qui trottent menues et se faufilent à travers les embarras, la marquise marchait avec une gaucherie adorable. Elle hésitait à chaque pas et semblait essayer chaque pavé comme une danseuse novice qui tâte la corde de sa semelle frottée de blanc d'Espagne. Les voitures l'effrayaient et lui arrachaient de petits cris. Le cœur lui battait fort comme celui de toute jolie femme qui va en aventure, et sans donner dans les rigueurs des vestales, la marquise n'avait pas tellement l'habitude de ses équipées qu'elle n'en éprouva quelque émotion. Il est vrai que les médisants eussent pu dire que madame de Champrosay n'avait pas 20 ans et que, sans doute, elle se formerait, comme la duchesse de B, la baronne de C, la présidente de T. Tout en marchant, elle se représentait la hardiesse de sa démarche, qui lui avait paru toute simple en projet, tant il y a loin du projet à l'exécution. Le rêve est toujours charmant, mais la réalité a ses exigences grossières, faites pour blesser les âmes délicates, que la même situation pensée n'effraierait pas. Les passants la regardaient sous le nez avec un air de curiosité et un sans-façon qui l'eussent indigné si Justine lui avait rappelé à propos que ces œillades impertinentes pour madame de Champrosay ne devaient pas offenser mademoiselle Jeannette à l'emporter de l'ouvrage en ville. Au bout de quelques rues, la fausse Jeannette, mieux entrée dans l'esprit de son rôle, sautillait sur les pavés, s'emmouchetait debout ses jolis bas de soie gris de perles, et soutenait assez bien les madrigaux un peu vifs des amateurs qui croisaient son chemin. Justine, hardie et délurée comme une soubrette de comédie, formait l'aile et l'arrière-garde et empêchait les brusques entreprises des jeunes libertins et de ces vieillards luxurieux qui n'ont pas changé de caractère depuis le bain de Suzanne. On arriva de la sorte rue Saint-Martin, lieu du rendez-vous. Là, Justine dut quitter madame de Champrosay, car il n'est pas d'usage que les grisettes aient des dames de compagnie ou des suivantes lorsqu'elles trottent par la ville. Cependant, elle ne s'éloigna pas tout à fait et se tint à l'écart, en observation, pour accourir au cas où son assistance serait nécessaire. Madame de Champrosay, quand Justine l'eut quittée, bien qu'elle fût au milieu d'une rue populeuse, se trouva aussi seule qu'au milieu d'un désert d'Afrique ou d'Amérique, et prenant son courage à deux mains, se mit à raser les maisons comme une hirondelle furtive. Sa solitude ne fut pas de longue durée. Monsieur Jean, bien que l'heure indiquée par le rendez-vous n'eût pas sonné encore à l'horloge de la paroisse, faisait depuis longtemps pied de grue, car, si l'exactitude de la politesse des rois, La politesse des amoureux consiste à devancer le temps. Si l'on n'arrive pas trop tôt, l'on arrive trop tard. Monsieur Jean, qui avait aperçu de loin Mademoiselle Jeannette, tout en semblant examiner avec beaucoup d'attention, pour se donner une contenance, un barbouilleur qui ornait d'une couche de peinture l'enseigne du chat qui pêche, s'avança d'un pas vif, mais mesuré, vers la belle ouvrière en dentelle qu'il salua très respectueusement lorsqu'il se trouva nez à nez avec elle. Jeannette joua l'étonnement lorsque M. Jean lui parla comme si cette rencontre eût été l'effet du hasard, et la plus aimable rougeur vint colorer ses joues, car, bien qu'elle fût du monde, Madame de Charrosay avait cette particularité de rougir à la moindre émotion. Lorsque Justine vit M. Jean cheminer auprès de Mademoiselle Jeannette, et le couple remonter vers le boulevard d'un air de parfaite intelligence, elle crut que sa surveillance devenait inutile et se retira discrètement pour laisser le champ libre à sa maîtresse. Rien n'était plus charmant que ce groupe. On eût dit l'amour déguisé en commis, cherchant à faire la conquête de Psyché, travestie en grisette. En les voyant passer, les hommes disaient « Oh, qu'elle est jolie !» Et les femmes « Oh, qu'il est bien fait ! C'est Cupidon, mais c'est Vénus !» Et chacun se souhaitait une telle maîtresse, chacun un tel amant. La rue Saint-Martin, qui voit voltiger le long de ses boutiques tant de gentilles ouvrières et d'agréables coureurs d'aventures, semblait émerveillée de tant de grâce. En effet, il était difficile de rêver quelque chose de plus charmant que Jeannette. La venue de M. Jean, bien qu'elle l'attendît, avait fait épanouir spontanément sur ses joues deux bouquets de roses que Flore eût enviés pour sa corbeille. Un feu modeste animait ses prunelles bleues voilées sous de longs cils blonds, comme sous un éventail d'or, et son sein, agité par les battements de son cœur, soulevait le linon de son corsage. Quant à M. Jean, il avait, sous ses habits simples et propres, un air de distinction à faire douter de la vertu de sa mère, car il était difficile de supposer qu'un pareil Adonis fût sorti de souche provinciale. Il fallait que quelqu'un du bel air, en passant par là, eût conté fleurette à Madame Jean. C'était le raisonnement que se faisait Madame de Champrosay, persuadée de la roture de Monsieur Jean. Quant au lecteur, il ne s'étonnera pas de la bonne mine du jeune homme, en se rappelant l'ennui du vicomte de Candale au souper de la Guimard, sa froideur avec Rosette dans le vis-à-vis, et le caprice qu'il lui avait pris d'aller au Moulin Rouge terminer sa nuit par des plaisirs de moins bon ton, mais plus vifs. « J'avais peur que vous ne vinssiez pas, » dit Jean, entrant en matière sans trop d'embarras. Le regard de Jeannette, contenant un doux reproche, et qu'il était impossible de traduire autrement que « Vous saviez bien que je viendrais », fut sa seule réponse. Le cœur me bat bien fort, car il y a plus d'une heure que je fais semblant de regarder les enseignes des boutiques. Je n'étais cependant pas en retard, répliqua Jeannette, en levant son doigt effilé vers le cadran de l'église, devant lequel le couple passait en ce moment. L'amour avance toujours, et pour lui, les horloges les mieux réglées retardent quand elles ont à sonner les rendez-vous. Monsieur Jean, mais vous êtes d'une galanterie. Galant, non. Amoureux, oui. Les beaux messieurs du grand monde sont galants. Ils savent dire mille impertinences aimables. Mais nous autres, petites gens, nous sommes passionnés et sincères. C'est pas notre esprit, c'est notre cœur qui parle. À ces paroles débitées avec feu, Madame de Champrosay pensa que Justine avait eu raison de prétendre qu'en amour il fallait déroger pour trouver un cœur neuf aux sentiments et capable d'aimer de la bonne façon. Eh bien, oui, j'admets que vous êtes amoureux, mais il ne faut pas gesticuler de manière à nous faire regarder les passants. Pardon, mademoiselle, permettez-moi de vous offrir le bras. À marcher près de vous, j'ai l'air d'un inconnu qui cherche à vous aborder et qui peut-être vous importune. Si vous l'acceptez, vous êtes sous ma sauvegarde, et si votre beauté attire encore les regards, du moins ma présence les forcera d'être respectueux. La marquise de Champrosay, qui sentait que ce raisonnement était juste, et qui s'y serait rendue quand même s'il n'eût pas été juste, appuya le bout de sa main délicate et gantée d'une petite mitaine de filet sur la manche bien brossée de Monsieur Jean. Ainsi appuyée, elle marcha d'un pied plus sûr sur le pavé glissant et parvint bientôt au boulevard. Mais je voudrais bien retourner chez moi, répondit du ton le plus naïf et le plus modeste du monde Jeannette, qui n'était pas fâchée de prolonger ainsi le rendez-vous et donner d'une façon naturelle son adresse à Monsieur Jean. Chez vous, mais rien de mieux, mais où est-ce chez vous? Jeannette nomma la rue. Seulement, comme elle ne connaissait nullement les rues de Paris, n'étant jamais sortie qu'en voiture, il lui fut impossible d'en trouver le chemin. Il lui parut invraisemblable à quelqu'un de moins amoureux et de moins préoccupé que Monsieur Jean qu'une ouvrière en dentelle ne sût pas le chemin de sa maison. La jeune femme donna pour excuse qu'elle sortait fort peu et habituellement en compagnie d'une amie qui savait mieux s'orienter qu'elle à travers la grande ville, et que ce jour-là, elle ne l'avait pas amenée pour une cause que Monsieur Jean apprécierait sans doute. Ce n'était pas à notre jeune homme de trouver cette excuse mauvaise, il s'en contenta. Quant à lui, sa position de provincial nouveau débarqué le dispensait de rien connaître aux rues de Paris. Il n'y avait d'autre moyen que de demander sa route de carrefour en carrefour, ce qui serait fort ennuyeux, ou bien de prendre une voiture de place. Et il faut avouer que, tout modeste et réservé que fût Monsieur Jean, la perspective d'un tête-à-tête un peu moins en plein vent, dans ce boudoir roulant qu'on appelle un fiacre, lui souriait très fort. Il proposa ce dernier moyen à Jeannette, qui l'accepta, non sans rougir un peu, mais elle commençait à être un peu lasse, car de sa vie, elle n'avait autant marché. Chapitre 12. Trouver un fiacre, ce ne fut pas long. Il en flânait un par là, laquesse peinte en bleu perruquier et doublée en vieux velours du 13 jaune. En amour, souvent un fiacre vaut un bosquet de citerres. Nos deux amants y montèrent, et dans le trajet, qui malheureusement n'était pas long, Jean, avec une hardiesse respectueuse, s'était emparé de la main de mademoiselle Jeannette, qui ne l'avait pas trop disputée, et en couvrait les ongles roses de baisers. La voiture s'arrêta, et un « Déjà » naïf s'échappa des lèvres de madame de Champrosay. Exclamation qui dut charmer beaucoup monsieur Jean, car elle pouvait passer pour un aveu, ou tout au moins pour la préface d'un aveu. Monsieur Jean, qui avait donné la main à mademoiselle Jeannette pour descendre du fiacre, n'avait pas lâché les jolis petits doigts qu'il tenait pressés délicatement entre les siens. La stricte bienséance eût peut-être voulu qu'il saluât et se retirât. Mais monsieur Jean, quoique de province le plus respectueux du monde dans ses façons, n'était pas homme à lâcher le toupet de l'occasion lorsqu'il le tenait. Il suivit Jeannette pour l'aider à monter l'escalier, bien qu'elle prétendît le pouvoir faire aisément toute seule, les grisettes n'ayant point d'écuyer pour leur tendre leurs poings. Avec une instance douce, quoique opiniâtre, Monsieur Jean, en dépit de la révérence que lui fit Jeannette, arrivé à sa porte, pénétra dans la chambre d'un air si candide, si décent, si réservé, que Madame Chaoset ne le put trouver mauvais. Ah, que dira Justine, pensa la marquise de la seconde entrevue. L'ennemi est déjà dans la place et mon cœur bat la chamade. Un peu fatiguée de sa course et plus émue qu'elle n'osait se l'avouer, Madame de Champs-Rosay se laissa tomber dans l'antique bergère, s'éventant de son mouchoir, quoiqu'il ne fût pas très chaud. Prenant un petit tabouret, M. Jean vint s'établir au pied de Jeannette, ce qui n'était pas si gauche, se dit la marquise, pour quelqu'un d'Auxerre. Car cette position si respectueuse en apparence, et qui se peut prendre vis-à-vis des reines, a cet avantage de ne prêter pas moins aux audaces qu'aux adorations. C'est un grand stratégiste dans la guerre de l'amour que de s'y mettre tout d'abord, et les polybes de la chose l'ont toujours conseillé. C'est donc un coup de maître que de débuter ainsi. Bien, vous êtes bien logée, mademoiselle Jeannette, dit M. Jean en promenant son regard autour de lui. Oui, fit négligemment Jeannette, il y a cette place pour travailler, pour chanter. Et pour aimer? Oh, pour cela, je n'en sais rien. Ma tante Ursule avait des principes. Avec sa mine rébarbative, elle recevait les galants des Turcs à mort. Malheureusement, elle est morte l'année passée. Pauvre tante. Et ici, Jeannette éleva vers le plafond, qui représente le ciel dans les scènes d'intérieur, un œil aussi sec que possible. « Que Dieu veuille avoir son âme !» s'exclama d'un air de componction suffisante Jean, qui n'était nullement fâché du trépas de cette tendre vêche dragon qui gardait les pommes d'Hespéride. « Et vous vivez seul ici ?» « Oh, je le vois que ma cousine Justine, vous savez, celle qui m'a conduite au bal. Oh, une bien bonne fille. Je le sors dans la semaine que pour reporter mon ouvrage, et le dimanche pour aller à la messe et à vêpres. Mais où diable la vertu va-t-elle se nicher ?» pensa M. Jean, appliquant à la grisette le mot de Molière au mendiant. « Ma mère et mon père sont morts lorsque j'étais toute jeune. » C'est ma tante qui m'a élevée, maintenant que je n'ai plus que Justine. Vous êtes la première personne étrangère qui ait mis le pied dans ce réduit. Ma cousine me grondera bien de vous avoir laissé entrer. Et moi, je vous en remercie comme d'une précieuse faveur. On ne peut voir voler la fauvette sans désirer connaître son nid. Ce me sera une satisfaction bien douce en pensant à vous, de pouvoir mettre derrière votre image le fond sur lequel elle se détache habituellement. Le jour, je vous verrai assise dans ce grand fauteuil près de cette fenêtre où un rayon de soleil viendra se donner à vos cheveux, occupant au travail des doigts faits pour le sceptre. La nuit, je me représenterai votre tête virginale, faisant des songes enfantins sur le chaste oreiller de ce petit lit bleu et blanc, et je saurai le matin quelles sont les fleurs que vous respirez lorsque, pour faire honte à l'aurore, vous allez en vous levant ouvrir votre croisée. Oh, monsieur Jean, mais vous parlez comme écrivent ceux qui font des chansons. Seriez-vous un auteur et méditeriez-vous une pièce pour la comédie? Dit Jeannette d'un air un peu alarmé. Bon, rassurez-vous, mademoiselle Jeannette, je ne suis pas assez dénué de poésie pour faire des vers. « Oh, tant mieux. Si j'aimais quelqu'un, je voudrais qu'il n'eût d'esprit que pour moi. » « Ainsi donc, vous vivez contente. » « Oui, mon travail de dentelle, oh, qui n'a rien de répugnant ni de pénible, que je ferais même par amusement, me donne suffisamment de quoi vivre. Il est vrai que je vis de peu. » Et vous ne sentez pas qu'il vous manque quelque chose? Nullement. N'ai-je pas du bon lait pour mon déjeuner et une voisine officieuse qui prépare mon humble repas? Car dans notre état, il faut se conserver les doigts nets. Mon mobilier n'est-il pas gentil? surtout depuis que ma tante Ursule m'a légué son fauteuil à oreilles et sa belle commode à poignée de cuivre. Allez, il y a peu de grisettes qui soient aussi fières et aussi braves que moi. J'ai à déshabiller pour chaque saison, vert pour le printemps, rose pour l'été, lilas pour l'automne, feuilles mortes pour l'hiver, sans compter les fourreaux pour tous les jours. Quant au bonnet, ce n'est pas cela qui m'embarrasse, je me fais de quoi les garnir, et je me traite en bonne pratique. En faisant cette énumération de ses richesses, Jeannette s'était levée et déployait ses robes avec un mouvement de coquetterie enfantine, suprêmement bien joué ou peut-être naturel. Ces ajustements, quoique simples, étaient de bon goût, venaient des meilleures faiseuses et pouvaient flatter la marquise, car ils la rendaient jolie aux yeux de Monsieur Jean. Mais vous n'avez pas besoin de tout cela pour être belle, dit galamment le jeune phénix d'Auxerre, après avoir admiré les richesses de Jeannette. Oh, pas besoin, cela est bon à dire. Mais vous ne ferez jamais croire à une jeune fille qu'un joli bonnet gâte une jolie figure et qu'une robe neuve n'ajoute rien à une taille fine. Monsieur Jean, se souvenant un peu trop du vicomte de Candale, avait sur le bout de la langue une réponse décolletée et mythologique qui eût été de mise chez la Guimard ou dans les coulisses de l'opéra, mais qui ne convenait nullement dans la chaste mansarde d'une grisette honnête. Aussi se borna-t-il à convenir que la parure embellissait la beauté, axiome que les femmes ont toujours trouvé raisonnable, et qui a été mis en lumière un siècle plus tard par un célèbre faiseur d'opéra comique. Cette concession faite, il revint à son idée première et continua. Un fauteuil à oreilles, une commode à poignée de cuivre ne remplissent pas tout un cœur, surtout un cœur de 17 ans. Justine est une compagne agréable, mais être deux femmes ensemble, c'est être seule. N'avez-vous pas désiré d'avoir un ami? Aussi, mais ma tante Ursule m'a dit que tous les hommes étaient des enjôleurs et qu'il n'y avait pas d'amitié entre une jeune fille et un jeune homme. D'amitié, non, mais de l'amour. L'amour est un péché. Le plus charmant péché du monde est celui qui se pardonne le plus facilement dans le ciel, dit Monsieur Jean en attirant à lui Mademoiselle Jeannette, qui le repoussa d'un « laissez-moi » si faiblement accentué qu'il n'en fit rien, et posa un baiser sur le front rose de la jeune fille qui se trouvait à la hauteur de ses lèvres. Un bruit de pas dans l'escalier se fit entendre fort à propos pour la vertu de Jeannette. Monsieur Jean, pensant que cette occasion se retrouverait, laissa s'envoler la colombe qu'il tenait déjà par l'aile et prit congé de l'air le plus civil du monde, après avoir pris toutefois rendez-vous pour le dimanche suivant. Madame de Champrosay prit par contenance un livre dépareillé sur une étagère, Huon de Bordeaux, où les quatre fils Aymon, nous savons plus lequel, se jeta sur le fauteuil, allongea ses pieds sur le tabouret et attendit Justine, qui ne vint pas encore, car le bruit de pas n'avait été qu'une fausse alerte. Chapitre 13. Justine, ayant vu sa maîtresse sous la sauvegarde de Monsieur Jean, avait profité de l'occasion pour aller rendre visite à ce courtaud de boutique, frais et bête, qui lui semblait le type du véritable amour, et dont la solide galanterie lui plaisait plus que les grâces un peu mièvres du chevalier. S'il ne parlait pas en mots choisis, le courtot avait auprès des femmes l'éloquence qui persuade, et Mademoiselle Justine le trouvait un cicéron dans le tête-à-tête. Aussi eurent-ils ensemble une conversation assez longue, et lorsque la femme de chambre vint retrouver Madame de Champrosay dans la chambre de Jeannette, le jour était-il entre chien et loup. Sa maîtresse tenait en main un livre, plutôt par contenance que pour s'occuper l'esprit, qu'elle avait suffisamment en éveil comme cela, car pour une femme, les romans qu'elle fait sont plus amusants que ce qu'elle lit, fussent-ils du Citoyen de Genève, de M. Arouet de Voltaire ou de M. de Crébillon le fils. La prévoyante Justine, qui avait arrangé en route une petite excuse pour rendre son absence un peu prolongée décente et plausible, n'en eut aucun besoin. Madame de Champrosay ne s'était pas aperçue que Justine eût tardé si longtemps. Elle ne vit même pas l'œil brillant, la joue allumée de sa camériste et sa coiffure un peu irrégulière. Quoique rajustée, qui eût pu lui donner le soupçon que Justine n'avait point passé tout son temps à faire sentinelle. Et d'ailleurs la marquise, bonne et indulgente, ne s'en fut pas autrement formalisée, surtout en ce moment où elle avait besoin d'elle. « Ah, voilà, Justine !» dit la marquise en sortant de sa rêverie, et avec un petit cri qui indiquait plutôt la surprise que l'attente. « Je suis aux ordres de madame, » répondit la soubrette en s'inclinant d'un air respectueux et contrit. « Justine, défaites-moi, » dit la marquise en s'abandonnant aux mains de sa femme de chambre. « Bon, ce sera bientôt fait, et j'ai là tout ce qu'il faut pour ajouter madame. » L'habile Justine, en quelques tours de peigne, eut bientôt fait disparaître l'ouvrière en dentelle et remit madame de Champrosay à la place de Jeannette. Le déshabillé à mille raies, le fichu de linon, les bas de soie gris et les petits souliers à boucles disparurent comme par enchantement, pour laisser paraître les vêtements d'une personne de qualité qui ne veut pas tirer l'œil. Ainsi accoutrée, madame de Champrosay regagna, suivie de Justine, la voiture qui l'attendait, et se fit mener à son hôtel, où son absence parfaitement motivée n'avait pas été remarquée. Pendant le trajet, Justine avait respecté le silence de sa maîtresse, qui, le cœur agité d'émotions inconnues, se livrait délicieusement à ses douceurs nouvelles. Un frais étonnement la rendait distraite à la fois et joyeuse, et quoiqu'elle ne dît rien, sa charmante figure pétillait de pensées. Le financier et l'abbé, qui ce soir-là soupèrent avec elle, la trouvèrent la plus jolie du monde, sans savoir pourquoi, et d'une beauté qu'on ne lui avait pas vue encore. Car, cela soit dit, sans vouloir faire de comparaison irrespectueuse, il en est d'une femme comme d'un cheval de race. Il faut les voir, tous deux animés. Et certes, madame de Champrosay avait une âme ce soir-là. Elle sourit fort agréablement au financier et traita l'abbé beaucoup mieux que de coutume. Elle riait de leur plaisanterie, qui lui fournissait un prétexte d'épancher sa gaieté intérieure, comme s'ils eussent dit les choses les plus piquantes et les plus spirituelles. Et cependant, monsieur le financier Bafogne avait de l'esprit comme un coffre et de la grâce comme un sac. Et l'abbé, bien qu'il sût du latin et qu'il fût au courant du jargon des ruelles, ne promettait nullement, s'il persistait à être d'église, d'égaler l'aigle de Meaux, le cygne de Cambrai. Mais, comme le disent certains philosophes qui ont du bon malgré leur obscurité, rien n'existe qu'en nous-mêmes. C'est notre gaieté ou notre tristesse qui rend les horizons riants ou tristes. Une personne ayant l'âme en joie trouve à se divertir là où d'autres moins heureusement disposés ne voient rien qui les puisse intéresser. Madame de Champrosay, dans l'état d'esprit où elle était, se fut amusée fort avec des gens de moins d'agrément que l'abbé le traitant. Cependant, à la fin, ils la fatiguèrent, car le vacarme de leurs éclats de rire, devenus bruyants et incommodes, la distrayait d'une pensée trop agréable pour la vouloir perdre dans les banalités d'une conversation superficielle. Pour indiquer à ses hôtes, disposés à prolonger la séance, que l'heure de la retraite était sonnée, elle fit quelques-unes de ces petites mines que les gens qui sont du monde comprennent à mi-mot, quoique souvent l'idée de laisser un rival seul avec la dame de leur pensée leur fasse faire la sourde oreille. La marquise contracta sa bouche de rose en un joli bâillement nerveux, comprimé poliment par la paume de la main, mais assez significatif pour qui voulait l'entendre. Comme le financier qui s'était levé et avait pris son chapeau au second bâillement, vit que l'abbé ne bougeait pas, il se rassit avec une opiniâtreté jalouse. Voyant Bafogne prendre position dans sa bergère comme un homme qui s'arrange pour le reste de la nuit, et l'abbé posé vis-à-vis de lui en chien de faïence, madame de Champrosay sentit qu'il fallait frapper un grand coup et demanda l'heure qu'il était d'un ton de fatigue et d'ennui assez marqué. L'abbé, qui était plus usagé que le traitant, comprit qu'il serait de mauvais goût de rester plus longtemps, et par une manœuvre savante, saisissant le bras de Bafogne, il lui dit d'un ton leste et dégagé: « Venez-vous, mon cher, vous voyez bien que cette chère marquise a besoin de repos. » Bafogne, quoique énormément contrarié, ne put s'empêcher de faire demi-volte et de suivre la courbure de l'échine de l'abbé dans le salut profond que celui-ci fit à la marquise. Ces deux messieurs partis, madame de Champrosay, sur qui Morphée semblait tout à l'heure distiller ses pavots les plus forts, fait d'expositions de tragédies et de discours académiques, se trouva soudain plus éveillée qu'une chatte guettant un oiseau. Elle se leva de la duchesse, où elle était nonchalamment étendue, avec les grâces mourantes d'une femme accablée, et fit deux ou trois tours par la chambre, puis se dirigeant vers la cheminée, elle tira le cordon de moire de la sonnette. Au tintement argentin de la sonnette, Justine parut aussitôt, car elle sentait l'heure des conversations confidentielles arriver, et elle se tenait prête dans l'antichambre à se présenter au premier appel. Justine était trop femme de chambre de grande maison pour ignorer combien il est avantageux pour une soubrette d'avoir voix consultative dans les choses de cœur de sa maîtresse. Quand elle eut défait madame de Champrosay, qui passa un grand manteau de lit de mousseline des Indes garni d'une dentelle de maline large de 3 travers de doigts, et mit sur le coin de l'oreille un petit bonnet le plus coquet du monde, dont les ailes en papillon faisaient le plus charmant effet, Justine fit mine de se retirer en adressant à sa maîtresse la question sacramentelle: « Madame a-t-elle encore besoin de quelque chose ?»« Reste, Justine, je ne sens nulle envie de dormir, » dit la marquise en se soulevant sur son joli cou de rose enfoui dans un oreiller de batiste. « Madame a quelque chose à me dire ? Voyez la maligne bête avec son air étonné. Mais certainement, j'ai quelque chose à te dire. »« J'écoute, » répliqua la soubrette en croisant l'un sur l'autre ses bras nus ornés de mitaines. « Bien, il faut que je commence moi-même, car tu as fait que d'avoir bouche cousue. Comment trouves-tu, monsieur Jean ? Au mieux, il a les dents belles. » « Oui, fort belle. La taille fine. Oui, très fine. Mais à ça, Justine, allons-nous faire une conversation en écho ? Et depuis qu'être de l'avis de madame, monsieur Jean me paraît un jeune homme accompli. Il a bonne grâce, mais proprement, et danse à ravir. Quant à son esprit, je ne puis rien dire, car il n'a parlé qu'à mademoiselle Jeannette, mais l'esprit n'est pas nécessaire en amour. » Il en a, je t'assure, et du plus fin. Mais tant pis. Pourquoi tant pis? L'esprit ne gâte rien. Mais je croyais que madame voulait un amour dans le genre naïf. Oui, mais est-il indispensable d'être un sot pour aimer? Oh, on dit aimer comme une bête, et les proverbes sont la sagesse des nations. Mais que diable, Justine, t'ont fait ces pauvres gens d'esprit pour que tu les maltraites à tout bout de champ? Madame, ils ne m'ont rien fait du tout, et c'est pour cela que tu préfères les bêtes. Ben, n'est-ce pas une raison? Bon, rassure-toi, monsieur Jean n'a pas cet esprit que tu crains. Ben, je ne cacherai pas, madame, que je l'avais soupçonné d'abord d'être poète, un certain air mélancolique qu'il a. Fis donc, ses ongles sont trop nets, ses cheveux trop bien en ordre, ses bas trop bien tirés pour cela. D'ailleurs, je n'ai rien remarqué d'amphigourique dans ses manières de s'exprimer. Ah, ben, dès que madame est sûre que ce n'est point un grimaud de l'être, je le trouve charmant de tout point. Penses-tu qu'il m'aime à la façon dont je veux? Oh, je le crois au jugé, fort éperdument épris de madame, enfin de mademoiselle Jeannette, je veux dire. Oh, certes, oui, oh, il n'aurait pas la hardiesse de lever l'œil jusqu'à la marquise de Champs-Rosay. Peut-être, je lui trouve un certain brillant dans l'œil, il a l'air d'avoir le cœur assez haut. Mais il faut qu'il ignore que mademoiselle Jeannette est marquise. Oh, rien n'est plus facile, car ce jeune homme ne doit pas aller dans les endroits où fréquente madame, et ne monte assurément pas dans les carrosses du roi. Ou d'ailleurs, il me rencontrerait qu'il ne me reconnaîtrait pas. Tu as su faire de moi-même deux êtres si différents que lorsque j'ai sur le dos le casaquin Jeannette, je ne sais vraiment plus qui je suis. Et quand, madame, le doit-elle revoir, ce beau jeune garçon? Dimanche, où je suis censé n'avoir point de tâches à remplir, ni de besogne à faire en ville. Si j'osais donner un conseil à madame, je lui recommanderais, pour la vraisemblance du rôle, de faire un peu la farouche à l'endroit de monsieur Jean, lorsqu'il lui débitera des douceurs, et de lui donner un peu du buse sur les doigts, s'il s'émancipe. Ce sont les façons des petites gens. Comme je vais lui dire, finissez d'un ton d'opéra comique. Oh, je dis cela, madame, parce que si Jeannette, qui dans les idées de sa petite sphère doit avoir des préjugés gothiques sur la vertu, se laissait aller tout de suite à des facilités de grande dame, monsieur Jean pourrait bien la soupçonner marquise. Mais sais-tu que c'est insolent ce que tu dis là? Oh, madame ne peut pas se faire une idée de l'importance qu'on attache à ces choses parmi le menu peuple. Aucune défaite n'est vraisemblable avant 6 semaines ou 3 mois de cours. Et puis, en forçant monsieur Jean à filer le parfait amour comme le font les bourgeoises, madame, je réponds, éprouvera des choses qu'elle ne saurait concevoir aujourd'hui. Mon Dieu, Justine, que tu es métaphysique ce soir! Avez-vous eu faim quelquefois? Mais quelle singulière question me fais-tu là? Jamais est-ce qu'on a faim. Les paysans, les ouvriers prétendent que si, mais rien ne me ragoûte à table. Je tâte un blanc-manger, je suce une aile de perdrix, je touche à quelque drogue, je bois un doigt de crème de Barbade et c'est tout. Eh bien, si madame restait un jour ou deux sans manger, elle mordrait à belles dents dans un chignon de pain bis et le trouverait délicieux, encore qu'il fût plein de bûches et de sons. Bon, alors, et tu me conseilles la diète pour me donner de l'appétit? Précisément. Il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis là. 15 jours de résistance, et je prédis à madame qu'elle sera amoureuse comme une couturière. Et monsieur Jean, que dira-t-il de ce régime? Et il s'affolera de mademoiselle Jeannette au point de faire toutes les sottises. Mais tu me dis là des choses de l'autre monde, mais qui ont un certain sens. Tu fais bien de me raffermir dans ces idées. Car aujourd'hui même, j'ai manqué de faire une faute de costume et oublié que Jeannette n'était pas la marquise de Champrosay. Il était temps pour ma vertu que tu revinsses, et peu s'en est fallu que mon roman ne commençât par le dernier chapitre. Mais pour me conformer à tes plans, je serai désormais d'une pudicité hyrcanienne et bourgeoise. »